Radio Okapi. Le journal Blaise Shindani Kambala.
À Kinshasa, majoration du prix de transport unilatéral par les conducteurs. Taxi moto, taxi ou taxi bus, le conducteur fixe les prix selon son vouloir. Les usagers s'en plaignent. L'ASECO, Association des chauffeurs du Congo, appelle ses membres à attendre les conclusions de la commission paritaire des fixations des prix qui s'y penche déjà. À Goma, l'Organisation internationale Médecins sans frontières, MSF, tire la sonnette d'alarme sur les maladies d'origine hydrique enregistrées ces derniers temps dans la prison centrale de Mounzenze. MSF dit avoir notifié plus de 140 cas suspects de choléra avec 2 décès depuis mi-février. Le lancement ce mercredi en Mbandaka du programme Pouvoir Choisir avec l'appui des Affaires Mondiales Canada. Il a trait à la santé sexuelle et reproductive de jeunes filles et adolescentes. Le coordonnateur de ce programme, le docteur Christian Malou, parle de la motivation et les avantages de ce programme. Voilà tout pour les titres. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition du journal Parlé de midi. À Kinshasa, une hausse du prix des transports est observée ces derniers jours, que ce soit en moto, en taxi ou en taxibus. La hausse est de 50 voire 100% selon le trajet. Ce prix est fixé par le conducteur lui-même de façon unilatérale. Les usagers s'en plaignent. L'ASECO, Association des chauffeurs du Congo, appelle ses membres à attendre les conclusions de la commission paritaire de fixation des prix qui s'y penche déjà. Restons à Kinshasa. 900 millions de dollars américains, c'est le coût total de 2 accords de financement signés ce mercredi, 1er juin à Kinshasa, entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais. Jean-Christophe Carré, représentant de la Banque mondiale en RDC, explique que 300 millions de dollars sont destinés à l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin et 600 autres millions pour les projets dans les secteurs de l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Jean-Christophe Carré est au micro de Paul Matendo Mayamba.
Nous venons de signer 2 accords de financement pour un montant total de 900 millions de dollars. 300 millions de dollars qui s'inscrit dans la poursuite de l'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin au Congo. C'est un projet qui est déjà en cours, qui s'appelle PADM-PME, qui est connu et qui va être multiplié par 3, notamment pour accompagner l'entrepreneuriat féminin et les petites et moyennes entreprises dans les régions des Kasaï. Et le deuxième projet, pour 600 millions de dollars, c'est un projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, avec un changement d'approche qui consiste non plus seulement à travailler avec la Régie des eaux et la SNEL, mais à travailler toujours avec ces deux entreprises d'État, mais en partenariat public-privé avec des entreprises privées. Et ce projet va financer donc des petites opérations, mais de nombreuses opérations solaires et de nombreuses opérations de petites hydrauliques.
Dans la province du Haut-Katanga, coup d'envoi ce mercredi à Lubumbashi de la 17e édition des DRC Mining Week ou la semaine minière de la RDC, placée sous le thème « Collaborer pour construire une industrie minière résiliente et durable en RDC », cette rencontre réunit plusieurs entreprises minières congolaises et celles venues d'autres pays. Pendant les 3 jours des travaux, les conférences et autres expositions sont organisées dans le but d'une part de faire la promotion du secteur minier et de l'autre de permettre aux investisseurs de nouer les relations d'affaires. Un reportage de Jean Gandou Kabongo rendu par Blaise Ndongala Mayanda.
C'est la ministre des Mines de la RDC qui a donné le go de ses assises de 3 jours. Pour Antoine Samba, ce forum était carrefour d'échanges et de réflexions autour du secteur minier. Elle a édifié l'assistance sous les rôles de l'industrie minière dans le renforcement de la résilience et de la durabilité de l'économie congolaise. Pour elle, l'économie de la RDC est dépendante du secteur minier qui demeure le principal porteur de croissance et contribue de manière significative au budget de l'État. Elle a aussi indiqué que tout choc exogène sur les secteurs comporte à coup sûr un impact réel sur l'économie de la RDC, dans son ensemble les cas des effets produits par la COVID-19. Cette semaine minière réunit plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles le minier, les investisseurs dans ces domaines, les jeunes entrepreneurs et autres. DRC Mining Week est une plateforme d'échange pour les acteurs et investisseurs qui souhaitent développer des partenariats solides en RDC. Pendant ces temps, certains opérateurs économiques cherchent à nouer des relations d'affaires avec d'autres partenaires venus d'autres horizons.
Nous le disions en titre, à Goma, l'Organisation internationale Médecins sans frontières, MSF, tire la sonnette d'alarme sur les maladies d'origine hydrique enregistrées ces derniers temps dans la prison centrale de Mounzenze. MSF dit avoir notifié plus de 140 cas suspects de choléra avec 2 décès depuis mi-février. La pénurie d'eau potable et le manque d'hygiène sont entre autres les causes de la présence de beaucoup de maladies dans cette maison carcérale qui compte actuellement plus de 3000 détenus. Face à cette situation, MSF appuie les autorités sanitaires locales pour tenter de limiter la propagation de la maladie. Jean-Paul Kikwayabo, point focal des activités médicales au sein de MSF à Goma, parle de l'appui de son organisation au micro de Denise Loukesso.
Par semaine, on pouvait enregistrer plus de 15 cas de choléra. Mais avec notre présence, nous nageons entre 5 et 10 cas par semaine. Donc il y a une petite diminution. Bon, en fait, le grand problème qu'il y a, nous avons la comorbidité. C'est-à-dire, en dehors des choléra, les détenus sont mal nourris. Donc il y a la malnutrition qui s'exerce, la tuberculose qui est là. Tout ça font à ce que la prise en charge se complique un peu. À notre niveau, nous avons décidé de faire une intervention. D'abord, la prise en charge médicale, c'est-à-dire on a approvisionné le centre par les intras. Mais ensuite, nous avons cherché à limiter la chaîne de transmission. Pour limiter ça, d'abord, on a décidé de faire la vaccination contre le choléra. Et on a vacciné plus de 92% des détenus se trouvant dans la prison. Nous avons aussi approvisionné l'eau au niveau de la prison Mounzenze. Donc par jour, nous donnons 10 à 15 mètres cubes d'eau au niveau de la prison. Nous avons aussi décidé de vider les fosses septiques et nous passons par la sensibilisation de tous les détenus.
Plus de 2800 détenus ont été vaccinés contre le choléra au cours du mois de mai 2022 afin d'accroître leur immunité contre la maladie. MSF dit également continuer à soutenir le personnel de santé à travers l'approvisionnement en médicaments et matériel médical pour la prise en charge des malades. Pendant ces temps en Ituri, les acteurs de la société civile du territoire d'Irumu se félicitent de la prolongation de l'accord militaire entre la RDC et l'Ouganda pour combattre les rebelles des ADF. Cependant, ils plaident pour l'intensification des opérations contre ces groupes armés qui occupent encore plusieurs villages en territoire d'Irumu et progressent vers Mambasa. Selon leurs propos, la première phase de la mutualisation des forces n'était pas efficace au regard des violences qui continuent d'être perpétrées contre la population. Des détails avec vous, Isaac Remoyope.
Selon la société civile déchiffrée de Boga et Walese Vonkutu, la situation sécuritaire s'est un peu améliorée dans les territoires d'Irumu depuis le lancement des opérations contre les ADF par les forces conjointes et par des armées ougandaises. Certains déplacés ont regagné leurs villages situés le long de la route nationale numéro 4 sur les tronçons Komandaluna. Même du côté de Boga, un retour timide de la population s'observe dans la zone. Cependant, plusieurs localités dans les groupements Banda Vilenga et Bandi Bongo sont encore sous le contrôle des rebelles des ADF, affirme le président de la société civile de Walese Vonkutu. Diedone Malanga demande aux deux forces d'accentuer leurs efforts pour sécuriser la population.
La première phase, normalement, n'était pas efficace. Notre force SRDC et aussi l'UCDF s'accélérait pour le moment avec les opérations de crash des ADF et aussi du territoire du Rumu pour que la population regagne leur milieu d'origine.
Même réaction de la société civile de Boga qui signale la présence des ADF vers Malibongo et d'autres localités proches. Son président Albert Baseke ajoute que la population n'accède pas au champ à plus de 5 km dans la forêt à cause de ces groupes armés.
Il y a encore augmentation de l'effectif de la part de l'ennemi. On pense qu'avec les contrats qu'ils ont signés, on pouvait éradiquer complètement ce fléau. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ils sont encore là.
Bounia Isakare Moyope, Radio Okapi.
Crise entre la RDC et le Rwanda. Au cours d'un point de presse hier mercredi, le cadre de concertation provinciale de l'Équateur s'est penché sur la tension actuelle entre la RDC et le Rwanda. Le cadre a condamné avec la dernière énergie le soutien que ce pays voisin apporte au M23, qualifié de mouvement terroriste en vue de balkaniser la RDC. En revanche, il a exprimé sa solidarité aux compatriotes victimes d'insécurité dans l'est du pays, ainsi que le soutien des Équatoriens au FARDC. RDC, au gouvernement congolais et au chef de l'État, Fabien Mungunza, président du cadre de concertation provinciale de la société civile de l'Équateur, dans cet extrait de déclaration choisi par Paul-Richard Malengela.
Le cadre de concertation provinciale de la société civile de l'Équateur condamne avec la toute dernière énergie l'agression ainsi prouvée, provoquée par notre voisin qui est le Rwanda avec ses acolytes du M23. De ce fait, nous demandons au Rwanda de retirer sans délai ses troupes du territoire congolais. La capture des deux militaires rwandais dans les champs de bataille en témoigne plus. Le cadre compatit au malheur qui touche nos compatriotes du Nord Kivu, victimes des actes barbares qui s'ajoutent à ceux de Beni perpétrés par les terroristes des DF. Nous réitérons aussi notre soutien indéfectible à nos vaillants militaires et au gouvernement de ne ménager aucun effort pour bouter dehors les ennemis du peuple congolais. Ainsi, nous tous, ressortissants du Grand Équateur, sommes derrière le chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour en finir une fois pour toutes avec l'insécurité dans l'est du pays.
Dans le même ordre d'idées, parlons de cette position du ministère des laïcs protestants Milapro face au conflit Rwanda-RDC. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi 1er juin ici à Kinshasa, le Milapro demande au gouvernement congolais de rappeler l'ambassadeur congolais accrédité à Kigali et de fermer les frontières entre les deux pays. Jeff Bambi, coordonnateur de cette structure, appelle tous les Congolais à soutenir les forces armées congolaises afin de défendre l'intégrité du territoire national. Jeff Bambi l'a dit au micro de Paul Matendo Mayamba.
Comme l'a déclaré l'Église du Christ au Congo par son président national, nous exigeons l'annulation de tous les accords entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous exigeons le rappel immédiat et sans condition de l'ambassadeur de la RDC au Rwanda et par conséquent l'expulsion de l'ambassadeur rwandais de notre sol. Nous exigeons aussi la fermeture de frontières entre le Rwanda et le Congo. Au-delà de tout, nous présentons nos félicitations et encourageons nos forces armées congolaises que nous soutenons sans embâche.
Suspension des activités des Rwandais sur le sol congolais. Au Sud Kivu, le député national élu de Fizi et vice-président du groupe parlementaire UDPS, Freddy Moussambia, salue la décision de Kinshasa. Cependant, il plaide pour que le gouvernement congolais songe à réhabiliter les routes et infrastructures routières entre Uvira et Bukavu par les escarpements de Ngomo. Pour lui, ceci est parmi tant d'autres mesures préventives au cas où le Rwanda réciproquait en interdisant les véhicules en provenance de la RDC de passer son territoire, ce qui rendrait encore plus difficile les opérateurs économiques et les transporteurs congolais qui passent par le Rwanda pour aller à Goma, à Bukavu et à Uvira. Moussambia est au micro de Fiston Goma Mayabala.
Toutes les marchandises en provenance de Dubaï, de la Turquie, de la Chine passent par le port de Dar es Salaam et utilisent les routes du Rwanda pour atteindre une grande partie de nos provinces du Sud et Nord Kivu. Nous demandons ainsi au gouvernement congolais, notamment au ministre des Infrastructures, à prioriser la construction de la route nationale numéro 5, RN5, entre Bukavu et Kamanyola, pour nous éviter des humiliations en passant par le Rwanda, en vue d'atteindre le chef-lieu de notre province du Sud Kivu dont il est originaire. Également l'accélération de la construction des routes entre Goma, Beni, Butembo, Kasindi, Bunagana et la construction du pont Luvungi et Rugombo au Burundi devrait isoler économiquement le Rwanda. La route dite Ngomo est déjà construite, comme vous le savez très bien, jusqu'au niveau de Nyantende. Il ne reste que 40 km à construire.
Actualité internationale.
Au Mali, grande inquiétude des populations de la région de Maneka dans le nord. Une bonne partie de cette région située dans la zone de trois frontières, Mali, Burkina Faso, Niger, est désormais sous les contrôles des djihadistes de l'État islamique au Grand Sahara qui fait par ses attaques de nombreuses victimes et des milliers de déplacés. Le représentant de la MINUSMA au Mali vient d'effectuer un déplacement dans cette région. Les diplomates français sont appelés à la grève ce jeudi 2 juin. Ils protestent contre la disparition du corps diplomatique ainsi que contre la dégradation des conditions de travail. Un mouvement particulièrement suivi jusqu'à l'ambassade de France en Chine.
L'invité.
Lancement ce mercredi à Mbandaka du programme Pouvoir Choisir avec l'appui des Affaires Mondiales Canada. Il a trait à la santé sexuelle et reproductive des jeunes femmes et adolescentes, l'assainissement et la prévention contre les infections ainsi qu'au genre et au plaidoyer. Dans la province de l'Équateur, le programme sera implémenté dans les trois zones de santé de la ville de Mbandaka et dans celle de Bikoro. Le coordonnateur du programme revient sur la motivation et les avantages de ce programme. Le docteur Christian Malou est interrogé par Paul Richard Malengela.
Docteur Christian Malou, bonjour.
Bonjour.
D'abord, une brève présentation de votre projet.
Merci. Il s'agit bel et bien du programme Pouvoir Choisir, qui est un programme qui s'intéresse à trois volets. Nous avons d'abord la santé de la reproduction et le droit sexuel, mais aussi le volet WASH-PCI et également le volet genre et plaidoyer. C'est un programme qui vise la jouissance des droits sexuels et reproductifs des jeunes femmes et adolescentes dans la province de l'Équateur.
Docteur Christian, tout à l'heure, vous avez donc présenté ce projet, mais quelle est la motivation? Qu'est-ce qui a amené à la mise sur pied de ce nouveau programme Pouvoir Choisir?
En fait, il y a eu des études de base, des enquêtes qui ont été effectuées ici sur place dans la province de l'Équateur. Les enquêtes ont démontré que 50% de jeunes filles et adolescentes de la province de l'Équateur n'ont pas de notions, n'ont pas de connaissances sur leurs droits sexuels et reproductifs. Et 50% d'entre elles n'ont pas de notions sur l'utilisation de préservatifs ni sur la planification familiale. Donc ce sont là les raisons qui nous ont poussés à orienter ce grand programme dans la province de l'Équateur afin d'accroître la jouissance même de droits sexuels et reproductifs auprès des jeunes femmes et adolescentes en vue d'une autonomie corporelle auprès de ces dernières.
Quand on parle d'autonomie corporelle ou bien sexuelle, comment allez-vous faire pour que ce programme ne puisse pas heurter les coutumes de l'Équateur? Parce que la plupart tendent à considérer la femme comme une chose dont on peut jouir à sa guise.
Merci. En fait, nous allons procéder à des sensibilisations auprès des leaders communautaires, auprès des leaders religieux, auprès des autorités administratives et politiques de nos communautés, afin d'avoir leur soutien, afin qu'ils comprennent le mauvais côté des us et coutumes néfastes par rapport aux droits de la femme et des jeunes filles. Donc, nous allons les sensibiliser afin qu'ils puissent nous accompagner dans la mise en œuvre de ces grands projets, et c'est ainsi que nous aurons la pérennisation même des acquis de ce programme dans la province de l'Équateur.
Docteur, en revanche, certaines gens estiment aussi que ce genre de programme pousse les femmes à devenir de plus en plus insoumises, à mettre des conflits au niveau des foyers, au niveau des familles. Votre réaction?
Non, je ne suis pas d'accord avec vos affirmations, parce que maintenant...
Pas mes affirmations, mais c'est que la population...
Ok, merci. En fait, maintenant, nous faisons la promotion de la masculinité positive, dont la société étant tellement ancrée dans l'injustice, dans les inégalités du sexe, et là, nous voulons inverser la tendance. Donc c'est maintenant que ce soit la femme ou l'homme, devons tous jouir dans un même niveau nos droits sexuels et reproductifs. Donc c'est ça même le bien fondé de ce programme. Ce programme tombe à point nommé pour essayer de réduire ces inégalités entre femmes et hommes dans la province de l'Équateur. Donc ce n'est pas pour rendre la femme insoumise, mais au contraire, c'est pour faire la promotion même des droits de cette femme et jeunes filles dans la province de l'Équateur.
Y a-t-il un message particulier à l'endroit de la population de l'Équateur bénéficiaire de ce projet?
C'est vraiment, nous sollicitons de leur accompagnement, l'accompagnement de toute la province de l'Équateur, des autorités, des jeunes filles et adolescentes, afin qu'ensemble, nous puissions mettre en œuvre les activités prévues dans ce grand programme qui est le Pouvoir Choisir.
Docteur Christian Malou, merci.
Merci.
C'est ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikota Chivueta, supervisée par Martin Sebujangwe et mise en onde par Alain Goy. Merci et bonne suite de programme sur la radio de la paix.